Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, il est 6h avant minuit, mercredi 21 mai 2025. Vous les avez peut-être remarqués en allant au marché Place des Lys samedi matin. Ou alors, il n'y a que moi qui vais au marché, je ne sais pas. Placardés partout dans le centre de Rennes, des affiches en noir et blanc, au centre le visage d'un homme et tout autour des mots « violeur, agresseur, prédateur, la fête est finie, t'as voulu jouer, t'as perdu ». Alors, le Télégramme vient de faire la lumière sur cet affichage pour le moins interpellant et qui a d'ailleurs très vite été retiré. En fait, cette campagne de dénonciation concernerait un membre du groupe d'ultra-gauche Défense Collective accusé de violences sexuelles en interne. Personnellement, je trouve que ça pose beaucoup de questions à plein d'endroits. Déjà, si l'on en croit l'article du Télégramme paru aujourd'hui, aucune plainte n'a encore été déposée. Pourquoi les victimes sont-elles poussées à afficher ainsi aux yeux du grand public et de façon débattable leur agresseur ? Selon Telegram, la Défense Collective a été mise au courant de plusieurs affaires de violences sexistes et sexuelles commises par certains de ses membres et de nombreux rapports et dynamiques de pouvoir et de domination ont été mis en lumière, ce qui a permis une prise en compte de ces problématiques. Le groupe a désormais entamé un travail de fond sur ces questions, toujours selon le journal. Dans un milieu très militant et porteur de valeurs fortes en ce qui concerne la lutte contre les VSS, est-ce qu'on ne peut pas attendre mieux qu'un règlement interne et en toute discrétion, pour ne pas dire non assumée, de la crise, une solution qui visiblement n'est pas suffisante pour les personnes concernées qui interpellent avec force les Rennais et Rennaises avec cette campagne d'affichage. En tout cas, si cette affaire démontre bien une chose, c'est que peut-être bien que pas tous les hommes, mais tous les milieux, et tous les milieux politiques sans exception, sont partie prenante de la société patriarcale. Tout de suite, le flash des Noirs.
Israël poursuit ses bombardements à Gaza, au moins 19 personnes ont été tuées dans la nuit. La pression internationale s'intensifie, l'Union européenne a annoncé réexaminer son accord d'association avec Israël. Entré en vigueur en 2000, ce traité faisait de l'Union européenne son premier partenaire commercial. Il avait depuis été élargi à plusieurs politiques communautaires, comme la recherche ou la mobilité étudiante, avec Erasmus notamment. Sur la livraison de l'aide humanitaire entrée hier dans l'enclave palestinienne, elle a été jugée insuffisante par l'ONG Médecins sans frontières. Si elle n'augmente pas rapidement, l'ONU craint la mort de 14 000 bébés dans les 48 heures. La société civile continue d'alerter ses dirigeantes et dirigeants et les mobilisations s'intensifient partout dans le monde. Un triste record, l'année 2024 a battu des records dans la destruction de forêts primaires dans le monde. C'est près de 7 millions d'hectares qui ont disparu l'année dernière. Ces chiffres ont été partagés aujourd'hui dans le Global Forest Review, un rapport annuel sur l'état des forêts dans le monde. Les forêts primaires, c'est des forêts non modifiées par l'homme, des réserves importantes de biodiversité, en plus d'être des puits de carbone importants. Romain, qu'est-ce qui explique ces chiffres records ?
Il y a deux facteurs principaux, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Le premier, c'est évidemment le changement climatique. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, particulièrement en Amérique du Sud. Pour rappel, le continent abrite la forêt amazonienne, plus grande forêt primaire tropicale au monde. L'Amazonie a connu d'importants incendies l'année dernière, notamment du côté du Brésil et de la Bolivie. Les incendies s'intensifient toutefois partout dans le monde avec le réchauffement climatique. Ça représente maintenant la moitié des pertes de forêts primaires. L'autre moitié, sans trop de surprise, c'est l'activité humaine. On détruit les forêts pour l'agriculture et l'élevage. Ces dernières années, un pays fait figure de très mauvais élève, c'est la Bolivie. En un an, la perte de forêt a été multipliée par 3 dans le pays. C'est plus d'un million d'hectares de forêts perdues. En fait, depuis une dizaine d'années, le gouvernement met en place des politiques publiques pour ce qu'on appelle l'agro-business. Elles vont à l'encontre des forêts primaires et malheureusement, aucune voix politique s'élève dans le pays pour freiner ce phénomène. Alors l'année 2024 fut une année record. Malheureusement, 2025 risque de l'être aussi, puis 2026, puis 2027.
Merci Romain, et pour rappel, dans le monde, chaque minute, c'est l'équivalent de 18 terrains de foot de forêt primaire qui brûlent. Si la France n'est pas actuellement touchée par des incendies, elle l'est par les inondations. Des violents orages se sont abattus mardi matin dans le département du Var, causant la mort de 3 personnes. Le président de la République a transmis ses condoléances aux familles des victimes et au même moment, le ministre François-Noël Buffet s'est rendu sur place assurer son soutien aux sinistrés. Les dégâts restent majoritairement matériels, ce sont des ponts, des routes et des réseaux électriques qui ont été endommagés. Ce soir, le département reste placé en vigilance modérée inondation. Un policier de la Bravem vient d'être jugé par le tribunal correctionnel de Paris. Il comparaissait pour des faits de violence commis lors de la manifestation du 1er mai 2021. La victime, un observateur de la Ligue des droits de l'homme, venu filmer les opérations de maintien de l'ordre. Le policier, soutenu par sa hiérarchie, s'est défendu d'avoir écarté un obstacle sans intention de le blesser. Une version que la partie civile a aussitôt contredite, assurant un acte de violence volontaire indéniable. À l'issue des débats, le policier a été condamné à un stage de citoyenneté consacré aux valeurs de la République. Ce procès aura permis de rappeler la nécessité du travail des observateurs indépendants et témoigner de la censure de plus en plus forte autour de la diffusion des images de forces de l'ordre. En parlant de sécurité, les collectifs Les Soulèvements de la Terre et Lever les Voiles viennent de publier leur guide pour aborder sereinement la mobilisation bretonne de ce week-end. Car oui, malgré les pressions, le village antifasciste aura bien lieu. Sur Terre, le rendez-vous est donné en Sud Finistère. Et en mer, le cap est mis sur les îles Glénan, en particulier celle qui appartient au milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Une flottille en mixité choisie femmes, intersexes, non-binaires et trans est en train de se constituer et cherche du monde. En tout, c'est déjà une centaine de bateaux qui se sont inscrits, alors la fête promet d'être belle. Elle sera aussi à Rennes, la fête. Le Maid Festival s'ouvre dès demain et jusqu'à dimanche au Parc des Gailleuls. Déjà la 5e édition, portée par une programmation éclectique mais exigeante, où l'électro régnera pendant 4 jours. Plusieurs milliers de festivalières et festivaliers sont attendus, de jour comme de nuit, il y en aura pour toute la famille. Alors, plus qu'à croiser les doigts pour que le soleil s'invite. Et demain, mouvement de grève dans les écoles rennaises. Alors que la ville de Rennes maintient sa préférence pour la semaine de 4 jours et demi, des enseignantes et enseignants luttent pour celle de 4 jours. Pour l'adjointe à la ville de Rennes chargée des affaires scolaires, les familles n'ont pas tous les moyens d'inscrire leurs enfants à des activités extrascolaires le mercredi. Elle pointe aussi le risque pour les enfants des quartiers touchés par le narcotrafic de passer une journée entière sans ne pouvoir sortir. Pour les enseignantes et les enseignants en grève, elles et ils avancent une augmentation de leur fatigue et une corrélation de cet emploi du temps avec une hausse du taux des arrêts maladie. Une dizaine d'écoles seront concernées par la grève.
Merci Enora, c'était ton premier flash dans 6 heures en minuit, mais pas le dernier.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Blazer à fleurs, c'est le printemps, même si ça se voit pas. Romain reçoit ce soir Émilie Réau, directrice de la modernisation de l'organisation à l'Université de Rennes.
Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut commencer par présenter un peu le rôle que vous tenez, donc directrice de la modernisation de l'organisation à l'Université de Rennes?
Oui, je comprends que ça ne parle pas complètement. Je vais peut-être commencer par dire que cette direction, elle va bientôt évoluer vers un terme qui va peut-être plus être parlant, qui sera la direction de la transformation écologique et sociétale. Donc notre travail, en fait, c'est de rendre opérantes des transformations au sein de l'université qui touchent ces questions.
Donc ce soir, vous venez par rapport à la convention de l'université en transition. Donc, pour rappel, 150 participants et participantes ont vécu un parcours de 9 mois avec plusieurs sessions qui comprenaient des formations, des ateliers. Le but, c'était d'élaborer collectivement des propositions visant à transformer l'offre de formation, la recherche, la vie de campus et répondre aux enjeux des transitions écologiques et sociales. Comment il est né ce projet ?
Alors ce projet, il est né de la volonté politique de repenser et de repositionner l'université au cœur de la société. Vous parliez tout à l'heure du contexte socio-écologique des forêts, changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution généralisée, raréfaction des ressources et accroissement des inégalités. Les scientifiques, et une partie d'entre eux travaillent chez nous, alertent une 7e frontière planétaire sur 9 et sur le point d'être franchie, qui menace du coup l'habitabilité même de notre planète et avec elle les conditions de vie de l'humanité. L'origine humaine de ces changements observés ayant été démontrée au rythme de la grande accélération, on sait que ce sont nos modèles économiques, culturels, politiques, nos modes de pensée qui sont questionnés. Et c'est là qu'on pense que l'université a toute sa place parce que comme acteur de la formation des citoyens, des citoyennes, des futurs entrepreneurs, nous avons un rôle considérable à jouer.
Et du coup, est-ce que c'est un projet qui est inédit à l'Université de Rennes ou ça concerne d'autres établissements en France ou à l'étranger ?
Alors, on sait, en France, il y a eu d'autres démarches qui ont été conduites, notamment à l'INSA Lyon, on a travaillé avec eux. À l'étranger, il y a l'Université de Lausanne qui a fait la même chose, en fait, et pareil, on a travaillé avec eux. Mais c'est vrai que c'est des premières conventions qui naissent et on espère bien que ce ne sera pas la dernière.
Ouais, et c'est par rapport à ça, est-ce qu'il y avait un contexte qui a fait que ça se passe à Rennes à l'Université de Rennes avant d'autres villes ? Est-ce que peut-être il y a des spécificités à l'Université de Rennes qui font qu'il y a eu ce travail plus tôt ?
Alors la première spécificité qui n'en est peut-être pas une, c'est qu'on était engagé depuis un petit bout de temps dans le développement durable. L'université était labellisée. Je pense que, en fait, nos obligations avec le rapport Jouzel sur le fait de devoir former les étudiants nous ont amené à nous poser un certain nombre de questions hein, sur comment on allait faire ça. C'est-à-dire, imaginer de former les étudiants sans nous former nous-mêmes à ce qu'étaient les compétences de la transition, c'était quand même un peu bizarre de notre point de vue. Donc, des aspects réglementaires, je dirais un peu, et puis un contexte local hein, avec nos parties prenantes comme la métropole qui est favorable et très favorable et qui pousse sur ces questions et qui nous aide du coup voilà, à aller dans ce sens.
Alors du coup, cette convention, comment elle s'est déroulée concrètement, factuellement ?
Factuellement, c'est effectivement 150 personnes qui ont suivi un parcours de 9 mois, 6 sessions, 10 jours. La particularité qu'on a fait, c'est qu'on ne les a pas tirées au sort, parce qu'en fait, on s'est inspiré des conventions hein, qui existent, conventions citoyennes, conventions des entreprises pour le climat. On a fait un choix qu'on n'assumait pas tellement au début d'ailleurs, on n'était pas sûr de notre coup. On a choisi de prendre tous les directeurs, toutes les personnes en direction en fait, ainsi que la présidence de l'université. En mettant bien sûr toutes les parties prenantes, les étudiants en premier lieu, enfin, j'y reviendrai si on peut parce que ça c'était un point capital, les étudiants, les parties prenantes autres que nous avons, les élus. Mais c'est vrai que ce choix, on ne l'a pas regretté parce que nous, notre conviction de départ, c'était que on ne peut pas imaginer, autant il faut que ça soit du bottom-up sur les propositions qui sont faites, autant on ne peut pas imaginer que ça soit en dehors de toute la direction et de toute la présidence de l'université qui du coup pourrait avoir l'effet d'avoir de propositions qui ne seraient peut-être pas mises en œuvre ou en tout cas qui ne seraient peut-être pas, qui n'acquériraient pas de conviction auprès de l'université, quoi.
Et donc dans ces sessions, il y avait des formations, des ateliers. Comment ça se passait un peu une session de cette
Une session, on vient, on a un scientifique généralement, en tout cas un connaisseur du sujet qui vient nous inspirer, qui vient nous raconter. Dans les faits, c'est toujours un peu pire que ce qu'on imaginait, donc on prend régulièrement une claque, même si on connaît très bien le sujet, même si on écrit sur le sujet. Ensuite, on en parle avec nos collègues et on fait... Donc la première partie, c'est de la tête, hein. On reçoit intellectuellement ce qui se passe. Et ça génère du cœur, ça génère de l'émotion. Alors on parle de cette émotion et ça, c'était une des grandes premières dans une université parce que c'est pas facile ce sujet. Et après, on écrit ensemble, on écrit en groupe, on en parle, on réfléchit à comment on voit le sujet par les différentes manières et on écrit des propositions. Voilà ce que je pourrais dire. Après, okay. Évidemment, qu'on n'a pas commencé par écrire. Mmh. On a commencé par se parler, on a commencé par se connaître et on a commencé par se dire ce que ce sujet nous faisait.
Mmh. Est-ce qu'il y a une sorte de groupe qui s'est formé un peu pendant cette convention ? Sur les 9 mois, j'imagine que ça crée des liens un petit peu.
Oui, alors le choix qu'on a fait, c'est qu'on les a rassemblés en équipages, qui étaient un peu des safe places, les équipages, où en fait, ils ont appris à se connaître, ils ont appris à se parler, et avec un cadre en fait, qui était toujours posé et qui était assuré par des coachs et des facilitateurs internes qui connaissaient l'université, des coachs qui étaient habitués à justement garantir la sécurité de la parole, l'équilibre, puisqu'on voulait quand même un processus qui soit horizontal, donc une voix égale une voix, que je sois un homme ou une femme, que je sois un étudiant ou le président. Et du coup, ces équipages-là, c'était une quinzaine de personnes et ils ont été pendant tout le long. Donc oui, c'était des espaces.
Ok. Peut-être pour commencer un peu à rentrer dans le vif de ce rapport, on peut peut-être commencer par la question de la transition écologique. Du coup, c'est quoi les enjeux de cette transition pour l'Université de Rennes ?
Tout à l'heure, vous avez cité 4 secteurs, formation, recherche, vie de campus, Enfin, vous avez cité trois, il en manque un, c'était la gouvernance. Mmh. Comment on prend une décision ? Comment on prend une décision ? Dans un monde fluctuant qu'on ne connaît pas, avec des modes de pensée en fait, qu'il faut revoir. Donc on avait cette partie, l'organisation et mode de fonctionnement. Nous, notre enjeu, il est partout. Très franchement, il est dans les quatre. Mais peut-être en premier, c'est la formation, évidemment. Parce que du coup, c'est là où on est acteur majeur, c'est là où on est levier. Et nous, avant l'Université de Rennes, on avait fait la Convention des entreprises pour le climat. Et donc, avec toutes les entreprises, pendant un an, ils nous avaient dit combien c'était essentiel que nous, on forme aussi différemment pour qu'on les pousse et qu'on continue à les pousser dans ce sens-là, en fait. Donc oui, la formation, mais la recherche tout autant. Enfin, voilà, je ne peux pas choisir.
Et le deuxième pilier, du coup, c'est la transition sociale. Pareil, comment on identifie les enjeux et comment on arrive à donner des propositions derrière sur un sujet qui est quand même très large, mais avec des besoins un peu dans tous les sens.
Alors, on est parti. En fait, la convention, elle ne visait pas à répondre à toutes les problématiques et toutes les controverses. Ce n'était pas possible. Donc, elle visait à ce que les gens soient en capacité, par un nouveau mode de réflexion, à pouvoir y répondre ultérieurement. Pour ce faire, il fallait une boussole. Et la boussole qu'on a choisie, c'est ce qu'on appelle le donut de Kate Raworth, dont vous avez peut-être entendu parler, qui donc fixe un espace juste et sûr dans lequel l'humanité peut vivre, avec un plafond environnemental comprenant les 9 limites planétaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et un plancher social en dessous duquel, en fait, on ne peut pas descendre. Donc, je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, mais une des façons dont on a intégré cette question sociale, c'est de se dire, si on n'est pas dans cet espace juste et sûr, alors toutes les décisions qu'on prend sont vraiment à risque. Mmh. Et il faut que quand on réfléchisse systématiquement avec ces deux aspects.
Ok. Vous en avez parlé un petit peu, du coup, tout à l'heure, c'est l'intégration des étudiants à ce processus. Alors, quel rôle déjà ils ont joué et comment ça s'articule justement l'échange justement avec entre tous les interlocuteurs et avec les étudiants.
Alors déjà ils nous ont aidés dès le départ parce qu'ils ont fait avec nous, on les a emmenés à la Convention des entreprises pour le climat, en fait on a fait équipe ensemble, et donc ça a permis que on puisse construire la suite aussi ensemble. En fait, ils nous ont aidés parce qu'ils n'y croyaient pas une minute, quoi. Donc, du coup, en nous disant, ça va être du greenwashing, comme d'habitude, super, voilà. Et puis, en plus, vous nous mettez là-dedans, d'autres choses à faire, enfin, voilà. Et donc, en fait, ils étaient exigeants vis-à-vis de nous, et ça, c'était bien. On a eu une super intervention le jour où on a lancé la convention avec Guillaume Michel qui travaille à l'université, enfin qui était étudiante à l'université de Rennes, qui nous avait dit je vous préviens, je vous ai à l'œil. Et on a gardé ce truc là pour pendant tout le temps de la convention. Après, dans chacun des équipages, il y avait des étudiants. Il y en a pas eu assez, et sans doute parce que on n'a pas en fait encore assez de com, parce que c'est pas facile, parce qu'on était sur 2 années, que c'est pas facile pour les étudiants. Mais du coup, ils étaient là et ils ont pris la place, c'est-à-dire qu'ils ont, et c'était pas facile parce que pour eux, quelle était leur légitimité par rapport à tous ces gens qui étaient direction.
Ils étaient désignés comment, du coup? C'était du volontariat?
Alors,
ou...
eux, on a fait du volontariat, okay. Absolument. On est passé par les ambassadeurs. Nous, on a des ambassadeurs, en fait, transition écologique et sociale à l'université. Donc, on est passé par eux et on a essayé de battre le rappel tout ce qu'on pouvait. En fait, on est passé par la porte, la fenêtre, par tout ce qu'on pouvait. Les profs, les parents. Voilà.
D'accord. Et du coup, donc, le résultat, c'est, si je ne me trompe pas, 97 propositions dans 22 champs différents. Quel impact ça va avoir, du coup, sur l'université ces prochaines années?
Ça, c'est une bonne question. Alors ça va servir à construire un plan de transition ou schéma directeur des DRSE, si certains en ont entendu parler comme ça. Ça, c'est de la techno. Notre enjeu, c'était de se dire que c'est facile presque d'écrire ça. On sait qu'il y a plein de choses qu'il faut faire. Notre enjeu, c'était qu'on l'écrive collectivement, qu'on s'y engage collectivement, que ça fasse sens collectivement et qu'on crée un premier commun. Donc, pour répondre précisément, ces propositions, elles vont être traduites dans un document qui va passer en conseil d'administration comme habituellement. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est ça notre enjeu, c'est que le principe de la convention perdure. C'est-à-dire la manière dont on discute, la manière dont on prend les décisions par rapport aux choses, elle continue à perdurer sous l'angle convention. Donc on essaye de garder des espaces ouverts pour cela.
Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est que pour chaque proposition, on peut voir comment sont déroulés les votes, avec les votes pour, les votes contre et les votes plus neutres. On voit qu'il y a des sujets qui font un peu plus, qui ont un peu plus fait de débat. Du coup, j'ai vu qu'il y en a un qui a créé pas mal, enfin, de débats ou de, en tout cas, avec pas mal de réponses un peu plus négatives. C'est l'ouverture à la société, à la coopération citoyenne. Par exemple, intégrer les citoyens et citoyennes dans les jurys d'évaluation de projets. Comment on explique un peu cette différence par rapport à des mesures qui étaient beaucoup plus consensuelles?
Alors, donc effectivement, il y a eu une mesure d'adhésion, elle a été faite par les participants. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elle soit faite un peu plus largement. Là, on l'a fait par les participants pour donner un état de lieu effectivement un peu vivant de ce qui s'était passé. Parce que comme les gens se sont concentrés sur des sujets plutôt que d'autres, ça leur permettait de se prononcer au global. Sur la partie qui est posée là, ben, évidemment qu'on l'a regardé de près. On a fait une clôture de la convention et on a commencé par dire, ben là, on a quand même un sujet de discussion.
Dans le rapport aussi, il y a une partie que j'ai trouvé intéressante sur les leviers systémiques, notamment notre rapport au temps. Et il y a eu derrière des propositions sur ce sujet, par exemple redéfinir l'allocation du temps de service du personnel enseignant ou repenser la structuration et le rythme des formations. Comment on travaille sur ce genre de sujet? Comment on réfléchit? C'est assez complexe quand même.
On y réfléchit avec les étudiants, justement, pour le coup, par exemple. On y réfléchit avec les enseignants. On y réfléchit, en fait, dans des structures qui existent quand même. On a des conseils pour cela. Ce qu'on voulait nous faire ressortir, c'est vraiment que, par exemple, cet aspect que vous venez de mentionner, ça figure partout, en fait. Ça figure dans les quatre secteurs. Donc, il y a quand même un enjeu à se pencher sur cette question collectivement, ouais.
Une petite question peut-être sur les budgets. Du coup, on sait que l'université de Rennes, elle est en difficulté comme beaucoup. Comment on peut inscrire un projet qui est quand même, comme celui-là, qui est quand même assez conséquent, dans un contexte pareil?
Alors, on a été aidé pour ça par le ministère, en fait, quand ils ont lancé leur volonté que chaque université fasse des plans. Ce qu'ils nous ont dit avec, c'est nous, bien sûr, on veut le plan, mais on veut que vous vous mettiez en mouvement. Donc, si vous faites des propositions qui peuvent être intéressantes par rapport à ça, on sera susceptible de financer. Donc, on a eu un financement, en fait, par rapport à ça. C'était une question complètement capitale. Et par ailleurs, la deuxième chose que je peux dire, c'est que du coup, on a utilisé ces finances intégralement sur les ressources humaines, c'est-à-dire, en fait, former les facilitateurs, avoir des coachs, tout ce qui va prendre soin, développer en capacité. Et par contre, pour tout le reste, eh ben, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, hein. Donc nos locaux, comme vous savez quoi.
Ok. Eh bien, Émilie, Réo, merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Bah oui, peut-être à bientôt pour parler de la suite de cette convention.
Avec plaisir.
6 heures avant minuit.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et ce soir, encore une toute nouvelle chronique dans 6 heures avant minuit. Ça s'appelle Clap et c'est signé Julia.
Oh, I love being a woman.
Bienvenue dans ce premier épisode. Donc dans Clap, on va parler de la manière dont sont représentées les femmes dans les différents genres cinématographiques. Et aujourd'hui, on s'attaque au western. Donc petit point avant de commencer sur ce qu'est le western. Donc c'est un genre qui trouve son apogée au XXe siècle et qui met en avant la période du XIXe en Amérique du Nord, avec souvent les mêmes personnages un peu cultes, si on peut dire ça comme ça, avec globalement le cliché du cow-boy et des indiens. Mais où sont les femmes? Quel rôle jouent-elles? Et comment sont-elles mises en avant? On commence avec le rôle plutôt basique et traditionnel de la femme dans les westerns, qui se cantonne à un personnage assez secondaire, comme la fille, la mère, la sœur, etc. Et on pense aussi toutes et toutes, je pense, à la figure de l'amante du cow-boy où la quête du héros débouche sur une histoire d'amour. On peut citer le film La Flèche brisée de Delmer Daves, sorti en 1950 par exemple. On peut évidemment pas oublier le rôle de la femme en détresse que le héros doit à tout prix sauver ou venger. Et on pense au film La Prisonnière du désert, réalisé par John Ford en 1956, où le héros part à la recherche de ses nièces disparues qu'il souhaite sauver. Le rôle de l'indienne est également développé, où elle tombe souvent amoureuse de l'homme blanc, comme dans La captive aux yeux clairs de Howard Hawks, mais le schéma inverse n'est que très peu développé par contre. Bon, vous me direz jusqu'ici, pas très féministe le western, sachant que la femme est globalement associée à un petit chaton sans défense qui ne peut se défendre seul et que l'on habille en blanc pour symboliser la pureté. Malheureusement, c'est pas fini, on a ensuite voulu toucher un public plus adulte. Alors quoi ? On a rajouté de la violence, développé des sujets plus sensibles ? Non, non, on a juste sexualisé les personnages féminins. Le personnage de la prostituée est alors apparu et s'oppose souvent à une autre femme avec le concept de bonne et mauvaise femme un petit peu. Et cette sexualisation des femmes passe aussi beaucoup par la caméra où l'on retrouve des plans sur les courbes des femmes, des plans où les hommes regardent la femme d'en bas comme quand elle est sur scène par exemple, ou encore des scènes plus sensuelles entre les personnages. Je pense au film Duel au soleil de King Vidor ou encore à Rivière sans retour de Otto Preminger avec la célèbre Marilyn Monroe qui joue le rôle de Kay, une chanteuse de bar.
One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands
Pas d'inquiétude, les femmes vont se rapprocher de leur heure de gloire et apparaître de plus en plus à l'écran. Mais pas toujours comme on l'espérait. On peut prendre l'exemple de l'antagoniste du western qui va commencer à être incarné par des femmes, comme dans le film 40 tueurs de Samuel Fuller, où le personnage de Jessica Drummond, est à la tête d'une bande de hors-la-loi. Mais bon, déjà qu'on leur laisse un rôle important, on pouvait visiblement pas trop en demander tout de suite. Leur personnage est alors associé aux hommes d'une autre manière, avec des critiques les jugeant de parfois trop masculines. Bon, on peut quand même pas finir ici sans bonne nouvelle. Alors promis, cette fois le western s'adapte aux mœurs actuelles et décide de choisir les femmes comme personnage principal et capital du film. Enfin. On en trouve étonnamment déjà des bribes dans les années 50 avec le film Johnny Guitar.
Stop feeling so sorry for yourself. You think you had it rough. I didn't find this place, I had to build it. How do you think I was able to do that?
I don't want to know.
But I want you to know. For every board, plank, and beam in this place.
I heard enough.
No, you're going to listen.
I told you, I don't want to know anymore.
You can't shut me up, Johnny.
Mais aujourd'hui, des films comme The Homesman de Tommy Lee Jones sorti en 2014 ou encore Hostile de Scott Cooper en 2017 révèlent l'envers du décor et la réalité des conflits du 19e siècle avec les peuples autochtones. De quoi affaiblir la gloire du rêve américain. Le développement de personnages féminins au vécu traumatique qui se battent pour s'en sortir ne peuvent qu'inspirer les fans de western.
Bah merci Julia, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
J'espère.
En attendant, est-ce que tu peux regarder le répondeur là ? Je crois que ça clignote, non ?
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Salut Cham. Eh ben apparemment, c'est les 1 an de Héloïse aujourd'hui. Enfin, les 1 an de bah, c'est 1 an qu'elle est à la radio, quoi. Donc voilà, bah. Je voulais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bisous la team.
Merci Gwen. Oui, j'ai pas 1 an, au cas où. Merci, c'est trop gentil. Je n'ai pas vu passer cette première saison. Avant de se quitter, je voulais juste faire un petit point sur les jeux concours pour vous rappeler que Syllab vous propose en ce moment de remporter des places pour 2 spectacles du festival Les Envolées, organisés à la MJC La Paillette. Donc le premier, c'est Être qui je suis. Ça se passe le samedi 24 mai au Théâtre de La Paillette. Ça parle de grandir et de se construire dans un monde hétérosexuel quand on ne correspond pas à cette norme. Et puis aussi à gagner des places pour un autre spectacle qui a lieu le lendemain au même endroit. Ça s'appelle Dérapage amoureux. Ça parle bien sûr d'amour et de vérité pas toujours bonne à entendre. Pour ces 2 jeux, un seul mot de passe, paillettes. On vous propose aussi 2 places pour les concerts de Imran, Timbuktu et Mirkout le vendredi 23 mai à l'UBU. Le mot de passe pour jouer, c'est Saz, du nom d'un instrument à cordes, sorte de luth kurde. On pourra sûrement en entendre lors de cette soirée spéciale qui est organisée par l'asso Goslico. Et puis enfin, plus que quelques heures pour jouer pour le concours du Triangle. Là, c'est pour le spectacle Tamanegi, le 27 mai. Le mot de passe, c'est oignon. Parce que en japonais, Tamanegi, ça veut dire oignon. Voilà, donc pour jouer et pour gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. C'est tout pour nous. Merci Timothée pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.